spécial, puis il a dit « why not », il va nous en jaser, c'est ouais. Le fun. L'industrie de l'automobile, c'est quelque chose qui brasse aussi, là, pas juste les tremblements de terre. Et puis j'ai mon ami Alexandre Saillant, qui est associé au groupe Saillant, qui est avec nous. Salut Alex.
Allô.
Ça va?
Oui, toi?
Ben oui. Alors donc, aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que je t'ai demandé de venir pour nous démêler un peu les affaires qu'on sait pas dans l'industrie de l'automobile. C'est-à-dire autant au niveau du crédit, les publicités qu'on voit un peu partout, le prix du neuf, le prix de l'usager, etc. C'est fait que... Qu'est-ce qu'on fait quand on est un consommateur, qu'on est en train de magasiner pour une nouvelle voiture ou une voiture usagée, là? C'est quoi les affaires qu'on n'est pas au courant en dehors de ce qui semble être affiché par les concessionnaires en général?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne sont pas au courant. Puis moi, je suis comme un consommateur, j'écoute la radio, je lis les journaux, puis je vois qu'est-ce qui se dit, mais je sais aussi comment ça marche l'industrie. Fait que je peux comprendre que les gens, des fois, peuvent être un peu mêlés.
Ben oui.
Puis des choses, bien évidemment, que des fois peuvent se faire sourciller ou bien qu'ils peuvent... questionner, c'est l'ensemble de tous les prix que tous les manufacturiers semblent gagner à être les meilleurs. Tout le monde est meilleur dans quelque chose. Fait que pour le consommateur, ça devient un peu difficile de se retrouver là-dedans et de dire, ben, quel produit que je prends. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus comme il y a 20-30 ans où est-ce qu'il y avait beaucoup de, si on veut, de pas bons véhicules, où est-ce que les gens voulaient faire attention pour ne pas se ramasser avec un véhicule indésirable.
Ouais.
Aujourd'hui, je dirais l'ensemble des véhicules sont tous très bien construit, très bien manufacturé, même s'il y a des différences.
Puis de c'est là, vrai, on a l'impression que le Citron, la Minoune, tout,
ça n'existe plus vraiment. Là. Non, c'est ça.
Le modèle de base, il est moins hot, mais il est quand même bien fait.
Oui, ouais, il y a quand même des variations. Puis tout le monde veut prendre la position numéro un. Puis ce que je dirais, moi, c'est qu'il y a deux grandes choses que les clients devraient regarder. Le premier, c'est vraiment sur la fiabilité du véhicule. Il y a plusieurs rapports qui existent. Là, quand je parle de fiabilité, non pas de qualité.
OK.
Alors, il y a une distinction à faire entre les deux. Le rapport le mieux là, pour les gens, c'est un rapport de fiabilité qui va regarder sur le long terme le véhicule. Est-ce que c'est un bon produit? Puis je pense qu'une des meilleures études qui sort à chaque année, c'est le Consumer Report aux États-Unis qui fait ça.
OK.
Lui analyse sur 20 ans l'ensemble des véhicules. Donc, il va questionner à peu près 420 000 consommateurs, 420 000 propriétaires de véhicules. Ils vont demander en dernier 12 mois, t'as-tu eu des problèmes dans tel ou tel critère? C'est vraiment des questions très spécifiques sur les types de problèmes.
OK.
Et avec ça, il arrive avec une note de fiabilité prévue sur ton 2020.
OK.
Et puis là, ben,
ils font une prospective un peu.
Oui, parce qu'ils regardent l'ensemble de l'historique. Ça fait des années qu'ils font ça.
OK.
Le modèle est-il nouveau? Et ainsi de suite. Puis ça va donner un bon indicateur sur vraiment la qualité de l'assemblage, la qualité des pièces, la qualité de conception du manufacturier. Puis surtout de voir que les résultats d'une année à l'autre, ben, il n'y a pas quelqu'un qui passe de la position 20 à la position 5. Alors, tu vois que c'est un rapport qui est très fiable, qui peut aider.
Donc ça, c'est Consumer Report.
Ouais.
On trouve ça sur Internet gratuit?
Oui. Si on cherche au Consumer Report, fiabilité véhicule,
okay.
En anglais, c'est facile à trouver, mais ça doit sûrement exister en français.
OK.
Les gens vont trouver ça, puis ils vont voir les manufacturiers qui vont être rankés dans un certain ordre. Mais encore là, entre le premier puis le dernier, est-ce que la différence est majeure?
Ouais.
Ben c'est ça. Là. Ça devient... C'est plus comme il y a 20-30 ans où est-ce qu'il peut y avoir des énormes différences.
Qu'est-ce qui fait que tout à coup, les voitures se sont mis tous un peu à être tout à niveau, je dirais? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, je pense que c'est la question de compétitivité.
C'est tout? Les Japonais sont arrivés, les Américains ont moins fait tout ce qu'ils voulaient peut-être, ou quelque chose du genre?
Je pense que quand les Japonais sont arrivés, évidemment, ils ont mis énormément de pression sur toutes les autres manufacturiers.
On était très impressionnés. Moi, je me souviens, les premiers Honda, tout ça, ouais. C'était comme la finition. On trouvait tout que c'était plus qu'un modèle reliant K, là, qui
exact.
Était un peu encore
ouais. Ouais, bon. On disait en général que les modèles asiatiques, japonais en particulier, parce que c'était à peu près juste des Japonais à l'époque, c'était toujours mieux construit que les modèles américains.
Exact.
La finition, surtout.
C'est surtout au niveau d'assemblage.
Ouais, les portes fermées.
Tu sais, il va avoir des critères. Ben, moi, j'ai visité une usine de Mazda parce que j'étais avec Mazda. Ils ont construit une usine au Mexique. Puis, on est allé la visiter. Puis, j'ai vu des usines aussi de GM dans le temps qu'on était concessionnaire GM. Puis, tu sais, les autres, ils vont prendre un petit carton, là. Puis, ils vont passer entre chaque crack de porte puis de haillon, puis il faut que tout passe
t'es chez
poil,
le dentiste.
Là. T'es chez le dentiste. Là. Ouais. Ils passent leur moteur au rayon X. C'est incroyable ce qu'ils font aujourd'hui, mais je dirais ils sont pas les seuls à faire ça. Il y a d'autres manufacturiers aussi qui font
donc,
ça.
Donc, l'arrivée des Japonais, on peut dire, aurait imposé une qualité minimum que là, tout le monde s'est mis à suivre.
Exact.
OK.
Que la plupart du monde, on suive. Il y en a plus ou moins bien que d'autres, mais je dirais qu'on ne parle pas des mêmes accords qu'on avait avant.
Donc, la fiabilité, on est capable d'avoir un indice de fiabilité du modèle qu'on achète.
Mais il faut regarder la fiabilité de long terme. Il y en a beaucoup qui vont pas de qualité initiale et des choses comme ça.
Mais si tu loues juste sur 3 ans, faut-tu que tu t'occupes de ça?
Oui. Mais en fait, si tu ne vas pas passer ton temps au garage,
okay.
Ça va faire... C'est la fréquence de tes visites. Les gens vont venir au garage 2 à 3 fois par année pour faire leurs pneus. peut-être un changement d'huile, mais les gens ne veulent pas venir au garage.
Pas vite.
Ben non, si je fais mes pneus aujourd'hui au mois de novembre, puis je reviens au mois de janvier parce que j'ai un problème de bruit ou de...
Ouais.
Ça n'intéresse pas les gens. Là. Okay. C'est sûr que ça fait une pression manufacturière de fournir un véhicule de qualité aux gens parce que sinon, je ne leur vendrais pas mon véhicule deux fois si tu es tout le temps au garage.
Je te suis.
Fait que c'est ça. Il y a 20-30 ans, ben, c'était moins connu. T'sais, si ton véhicule avait des problèmes, ben...
Tu vivais avec.
T'as pas les réseaux sociaux qui mettent une pression aussi.
Ouais.
Tout ça aujourd'hui.
Ouais, je comprends.
Ouais. L'autre rapport qui est bien important à regarder aussi, je pense, c'est la valeur résiduelle d'un véhicule. Même si tu
quand
loues.
Loues.
Même si tu loues pas. Parce que ça donne un très bel indicateur de si tu es vraiment un bon véhicule que j'ai. Si la valeur résiduelle. Parce que la valeur résiduelle, dans le fond, c'est quoi? C'est quand je loue. Quand je loue un véhicule de 50 000, je le loue pour 3 ans, puis là, je dis un chiffre comme ça, valeur résiduelle de 60 %.
Ouais.
OK, ça veut dire que le véhicule, dans 3 ans, il va valoir 30 000. Je loue 20 000. C'est ça que je loue, dans le fond.
Ouais.
Fait que je vais payer l'intérêt sur le véhicule au complet, 50 000, plus le capital sur 20 000, puis c'est comme ça que je vais avoir mes paiements de location.
OK.
Si mon valeur résiduelle est plus haut, ben, je devrais avoir, à ce moment-là, des paiements à location plus bas que quelqu'un qui a une valeur résiduelle qui serait à 50 %, par exemple. Parce que lui, il faudrait que je paye du capital sur 25 000 que je rembourserais au complet.
Ça fait que ta valeur résiduelle, finalement, plus elle est haute, plus à quelque part, tu en as plus pour ton argent.
Mais j'en aurai un meilleur paiement de location.
OK.
Fait que peu importe le prix d'acquisition de l'auto, dans le fond, parce que le coût d'un véhicule, même si c'est en achat, c'est quoi? C'est le prix d'acquisition moins le prix de vente. Ça, c'est ce que j'ai payé, dans le fond, du véhicule.
Oui.
Moins les intérêts.
Ouais.
OK, ça, c'est vraiment le coût de propriété d'un véhicule.
Ouais.
Fait que quand les gens vont regarder, mais qu'est-ce qui m'a coûté mon véhicule? Ben, c'est vraiment ça, dans le fond. Si j'ai acheté un véhicule 20 000 puis je l'ai revendu 2 ans après 18 000, ben, il m'a coûté 2 000 plus l'intérêt.
C'est ça.
Fait que, mais si je l'ai revendu 10 000 au bout de 2 ans, il m'a coûté cher le véhicule.
Ouais.
Même si j'ai acheté un véhicule 15 000 puis je l'ai revendu 10 000 au bout de 2 ans, ben, il m'a coûté 5 000.
Ouais.
Fait que c'est pas juste le prix d'acquisition du véhicule. Sauf que la valeur résiduelle, c'est fait comment? Comment que c'est établi?
Ouais.
Ben, comme au Canada, le rapport, dans le fond, il est fait par ALG, qui lui, il regarde tous les véhicules qui reviennent, dans le fond, chez le concessionnaire, puis que le concessionnaire ne reprend pas, ça s'en va à l'encan.
OK.
Fait que si la valeur résiduelle du véhicule, par exemple, si le véhicule, il arrive à 30 000, mais le véhicule, il en vaut 26 000, ben moi, je suis le concessionnaire, je n'irai pas l'acheter.
Non.
Il en vaut 26. Je vais attendre qu'il y ait à l'encan, puis je vais l'acheter à 26 000 à l'encan. OK?
Oui.
Ça va à l'encan, puis AG voit toutes ces données-là, les compile tous. Puis il dit, OK, ben les futurs produits X, Y, Z, ben ils vont avoir une valeur résiduelle maintenant de 52 % et non pas 60 parce qu'ils se vendent moins cher.
Je te suis. C'est que c'est l'encan qui détermine.
C'est ça.
Okay.
Mais pourquoi que ces véhicules-là s'en vont à l'encan pour moins cher? Ben, la demande est peut-être moins grande.
Ouais.
Le propriétaire, pourquoi qu'il ne rachète pas son véhicule?
Fait
que la valeur résiduelle, ça en dit long un peu sur la demande du produit.
C'est ça.
Si la demande du produit est moins là, ben, peut-être que le véhicule est moins populaire. Il y a d'autres facteurs aussi.
Mais ça, Alex, juste pour. Ça, c'est un pourcentage qu'on peut voir et demander. Quand on fait, par exemple, un exercice de location autre, on peut...
Ceci avec ton conseiller aux ventes, il va pouvoir te dire c'est quoi la valeur résiduelle. Par contre, c'est un indicateur parmi tant d'autres, mais tu vas voir dans le paiement du véhicule aussi. Là.
Non, mais où ça m'intéresse, c'est que ça peut être un bon indicateur, justement, l'espèce de valeur de revente est un bon indicateur de la demande.
Ton rapport, tu peux voir en ligne aussi.
Non, mais si, admettons, on dit qu'on va là, voir, on parle à son vendeur...
Oui.
On peut lui demander c'est quoi le pourcentage?
C'est quoi la valeur résiduelle?
Oui, mais quel pourcentage tu recommandes de regarder, toi? C'est-tu un 60% qui devient?
Ah ben non, ça dépend. Ça dépend du terme du véhicule.
Ouais.
Ça dépend du segment du véhicule. Ça dépend de plein de facteurs, là. C'est plutôt de le comparer avec un produit comparatif. Tu sais, je peux pas.
OK, parfait.
Oui, c'est ça, parce que, tu sais, dans les SUV, les valeurs résiduelles vont être différentes que dans un véhicule, mettons, d'entrée.
Donc, si, mettons, je magasine 3 SUV.
Oui.
Ben, ça peut être une très bonne donnée pour les comparer, de voir c'est quoi la valeur résiduelle de chacun. C'est ça que, dans le fond, que tu dis.
Ben,
c'est une bonne façon
c'est une façon parmi d'autres, mais il y a d'autres critères qui vont influencer les résiduelles aussi, c'est-à-dire le prix de départ. Le manufacturier peut se partir très haut,
okay.
Mais des gros rabais. Donc, je pars un véhicule à 30 000, mais je ne vends pas à 30 000. J'y vends tout le temps à 26 000. Je mets des rabais de 4 000.
Ouais.
Ben, ça va affecter mon résiduel.
Okay.
Parce que là, dans le fond, il va se détailler usagé à 20 000. Comme l'autre que j'ai parti à 26, il faisait 20 000. Donc lui, il va paraître pour avoir un meilleur résiduel que l'autre qui part à plus haut avec des gros rabais.
Comment on fait pour se démêler? C'est sans tomber, parce que je veux pas qu'il y ait trop de chiffres là, dans notre affaire. Comment on fait pour, ben, comme client, pour dire le résiduel, je veux
le
que
paiement.
Ce soit un indicateur?
Ça va être le paiement, ton indicateur.
OK.
Le paiement. Parce que le prix du véhicule a pas vraiment d'importance, c'est le paiement. Plus que ton paiement, si ton paiement... Fait que là, si je compare deux véhicules, un à 30 000, mais qui a un résiduel très bas, puis l'autre qui part à 26 000, celui à 26 000 peut sembler moins cher que celui à 30 000. Mais là, tu me donnes un rabais de 4 000. OK, ben là, j'ai un gros deal. Mais si je regarde le paiement, celui à 30 000, il y a un paiement plus cher que celui de 26 000, même s'il y a un rabais de 4 000.
Ouais.
Pourquoi?
Ouais.
Ben parce qu'il y a avoir l'autre bout, un résiduel qui va être plus bas, il va être à 18 000, l'autre va être à 20 000.
Ça fait qu'il faut pas trop s'embarrasser au prix de départ.
Non.
Il faut vraiment regarder c'est quoi le paiement que je fais chaque mois.
Okay. Le prix de départ, le rabais, ça plus ou moins c'est important, c'est le paiement pour le produit que tu as.
Parfait.
Ben, parce que la plupart des gens vont acheter un véhicule en fonction de leur budget. Là.
Exact.
C'est pas du tout comme une maison où on fait comme, hey, le prix demandé c'était 300 000,
exactement.
Finalement j'ai eu à 250.
Non.
Là, c'est ça, faut pas regarder.
Hey, on
ça.
Voit ça beaucoup. Tu sais, moi, j'écoute des fois, puis rabais de 6 000 $ les clients, des fois, ils arrivent, puis ils pensent que on a un rabais, on fait 6 000 pièces de profit.
C'est ça.
Okay, premièrement, les rabais sont donnés par les manufacturiers.
Ouais.
Mais un rabais de 6 000, là, du jour au lendemain, ça se peut pas.
OK.
OK, ça arrive bon, jamais. Okay, c'est que tu avais avant un rabais sur le taux. Tu avais un taux de 1 %. Là, le mois d'après, le taux va monter à 3-4 %, puis là, ils vont mettre un rabais plus cash. Puis là, ils vont s'adapter selon le temps de l'année. Quand on arrive en début d'année comme ici, c'est le temps de louer les véhicules.
Ah bon?
Oui, pour la nouvelle année modèle. Parce que la valeur résiduelle est plus haute. Parce que là, aujourd'hui, c'est un 2020.
OK.
Fait que mon 2020, dans 3 ans, je vais être en janvier, dans le fond, 2023.
OK.
Il va valoir plus que le même véhicule en décembre 2023.
T'as comme sauvé 11 mois. Là.
Ben, c'est ça. Fait que ça reste la même année modèle.
Fait que ah, c'est bon. Ouais, ça veut dire qu'en début d'année, c'est là qu'on gagne à louer.
Oui, dans le fond, là, tout le printemps là, jusqu'à l'été, là, ça vient, c'est très intéressant à louer.
Okay.
Là, après ça, le manufacturier, s'il veut continuer de louer au même paiement, ça lui coûte plus cher parce que son résiduel baisse, puis là, lui, il doit compenser.
Je comprends.
Il met un plus gros rabais pour compenser son résiduel qui est plus bas. Mais là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre un rabais sur le deal en financement.
OK.
Fait que là, ça devient intéressant de acheter un véhicule. Fait que quelqu'un qui aime être propriétaire d'un véhicule puis le garder 7-8 ans, bien, on va voir si sa clientèle-là plus vers la fin de l'année.
Ah, OK.
On est-tu encore quelque part à la fin de l'année parce qu'il doit rester des modèles 2019 avant
le
concessionnaire?
Mais là, il faut faire un.
Faut magasiner un peu?
Bien, non, c'est que ça veut dire qu'il va avoir moins d'options, moins de choix. Alors, vous allez aller dans l'une de mes concessions. Je peux en avoir encore des passements d'autres, mais il va me rester cette couleur-là, cet équipement-là,
qui
n'est pas nécessairement ce que vous voulez.
Ouais. Je comprends.
Alors, il y a beaucoup d'achats qui vont venir plutôt vers la fin de l'été. Ils vont avoir encore tout le choix qu'ils veulent. Puis, ils vont avoir des excellents rabais. Ils n'auront pas... Le rabais supplémentaire qu'on va avoir à ce temps-ci de l'année, ça va être plus le concessionnaire qui va le donner.
OK.
Puis là, contrairement à ce que les gens pensent, les marges de manœuvre des concessionnaires, c'est plus ce que c'était non plus. C'est beaucoup plus petit. Puis ça, il y a une raison à ça, c'est que les manufacturiers... Puis tu sais, on le voit, là, la clientèle, si on regarde la clientèle qu'on avait avant, là, quand moi j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, plus la clientèle plus de baby-boomers qu'on voit, eux autres sont plus habitués de négocier, puis ils disent, je vais chez le concessionnaire, je négocie. On va chez Home Depot, on
ne
négocie pas, mais là, c'est ça. Moi, je vais négocier, puis bon, on va faire un prix, je connais quelqu'un, puis... Les jeunes aujourd'hui habitués à acheter sur Amazon puis tout ça, c'est un prix puis ils veulent pas négocier. Puis on sent, là, on le voit, les gens n'aiment pas négocier. Les manufacturiers le savent aussi.
C'est quoi ton vrai plus bas prix là?
C'est quoi, c'est ça. Tu sais, puis le manufacturier veut surtout que chaque client qui rentre dans une concession ou d'une concession à une autre paye le même prix. C'est pas une bonne publicité qu'un client paye 500 ou 1000 pièces de plus qu'un
exact.
Autre.
Là. Ça n'a pas de sens.
Alors, ça n'a pas de sens. Fait que, puis d'ailleurs, ils ont essayé dans le passé, mais la loi leur permet pas de faire ça parce que nous, on est des concessionnaires. Tu sais, Home Depot, c'est des magasins corporatifs.
OK.
Nous, on est tous des concessionnaires, des hommes d'affaires indépendants qui ont notre commerce, on a une franchise, on a notre territoire.
Ouais.
Nous, on doit, dans le fond, il y a le prix de départ suggéré. On ne peut pas vendre plus cher que ce prix-là, mais on peut vendre à prix moindre. Ça, c'est la loi.
OK.
Alors, le seul qui a fait, dans le fond, l'exception à ça, c'est Tesla, qui c'est des magasins corporatifs. Tu arrives avec un nouveau modèle d'affaires qui dit, moi, ça va être le même prix pour tout le monde. Tu l'achètes sur Internet, puis c'est le même prix. Mais l'ensemble des concessionnaires, c'est tout un prix que le monde peut négocier. Par contre, ce que mes factures ont fait pour un peu se rapprocher d'avoir un prix unique, c'est que les marges de manœuvre des concessionnaires sont rendues maintenant beaucoup plus petites. Ce qui fait que, tu sais, on ne peut plus arriver et dire, je vais donner un rabais de 2000. Là. Ça n'existe plus.
Ouais.
C'est ça. Fait que les gens, ils vont tous payer à quelques centaines de dollars près le même prix. Il peut arriver des exceptions, des fois, sur l'évaluation du véhicule d'occasion. Dans le sens que n'importe qui peut se tromper. Parce qu'on a des outils très sophistiqués aujourd'hui. Tu sais, on a des biens de l'échelle qui vont regarder le marché en temps réel, puis je vais évaluer exactement ton véhicule, ton produit. Je vais voir exactement qu'est-ce qu'il y a à vendre. Puis pour être pressé sur le marché, je vais savoir exactement quel prix je dois l'acheter. Je sais exactement combien d'argent je vais mettre dedans pour le reconditionner, pour le mettre en bon état. Parce que nous, on donne des garanties sur les véhicules.
Mm-hmm.
Puis de pouvoir quand même être un prix pour que je puisse le vendre sur le marché à une bonne vitesse,
ouais,
un bon roulement.
Compétitif.
C'est ça.
Le client, il peut négocier, pas beaucoup sur le prix d'achat du véhicule, mais il peut peut-être négocier des accessoires,
ben,
les pneus, le service.
Ben, c'est la même chose. Non, c'est toute la même chose. C'est-à-dire que si moi, je donne des pneus ben ça fait partie de la transaction. C'est un coût pour le concessionnaire. Donc, il donne des pneus de 600 $, ben c'est le rabais qu'il a donné, si c'est ça qu'il a donné comme rabais. Mmh. Alors, mais tu vas voir, d'une concession à l'autre aujourd'hui, ce que les gens vont réaliser, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'écart. Je vous dirais, les seules fois qu'on peut voir des fois un écart, c'est justement dans l'occasion, quelqu'un se trompe. Ben, on va évaluer le véhicule à 5 000, puis l'autre va faire un erreur, il va l'évaluer à 6 500. Fait que là, le client va avoir 1 500 de plus. Ça peut être intéressant. Ça arrive pas souvent parce qu'on a des outils aujourd'hui très sophistiqués, mais ça peut arriver. Alors, c'est tout des humains. Puis là, ben, c'est sûr que le concessionnaire qui a payé 6 500, lui, il va trouver ça dur quand il va vouloir vendre le véhicule. Là.
Ouais.
Mais ils feront pas d'argent.
Il n'y a pas de miracle sur le marché. Même, ouais,
mais c'est ça. Okay. Fait que c'est comme ça que ça marche, les prix. Fait que, conclusion, les méga rabais faramineux, écoute, c'est dans le fond, c'est juste le. Les manufacturiers qui font ça, il y a certains manufacturiers qui sont tout le temps dans ce pattern-là.
Ouais, je te suis.
C'est leur modèle d'affaires. Ils changent le rabais d'un mois à l'autre, ou souvent c'est le même rabais qui continue.
Toujours mais... spectaculaire, mais dans la vraie vie, ce que tu dis, c'est que le prix qu'ils disent qui est en rabais, c'est un prix qui se vend jamais.
Ben non.
Ça sort jamais à ce prix-là.
Bon. À 6 000, ça se vend jamais. Au pire, il va passer de 5 500 à 6 000. Donc, finalement, c'est 500 le rabais.
C'est ça.
C'est pas 6 000, c'est 500.
Ouais, je te suis.
Même chose pour. C'est prix d'employé ou coûtant de la facture ou ces choses-là, ben c'est ça se peut pas que quelqu'un vende un véhicule au coûtant.
C'est des coûts marketés.
C'est au coût, ils vous le vendent au prix qu'ils l'ont dans leur facture en temps normal, mais ils ont un kickback du manufacturier par derrière. Sinon, il y a personne qui se rend affaire, sinon ça ne marchera pas. Là.
Okay.
Fait que c'est moi quand j'entends ça, je trouve ça plate parce que c'est pas une façon transparente. Tu sais, c'est un peu prendre les gens pour des idiots. Tu sais, je veux dire, ça vient pas des concessionnaires, c'est les manufacturiers qui amènent ces types de
promos-là. Concessionnaire, il peut rien.
Le concessionnaire, il peut rien. Là, lui, il vit avec ça. Mais je trouve que c'est une façon de faire qui date d'il y a plusieurs années.
Non, je comprends.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau des prix.
OK.
Le fameux PDSF, tu l'as mentionné, le prix de départ suggéré par le fabricant.
Ouais, c'est prix de détail suggéré.
Prix de détail.
Ouais. Du fabricant. Okay. Ouais.
Mais ça, vous pouvez pas changer. Là.
Ça, c'est manufacturier qu'à chaque année modèle, il arrive avec ce prix-là. Puis,
si le prix change, parce que le fabricant vous
le prix ne changera pas dans l'année. Non, le prix ne changera pas dans l'année. Et les rabais peuvent changer.
OK. Oui, mais les rabais calés par les fabricants.
Oui. Là, ils vont rajouter un taux d'intérêt. Souvent, ce que manufacturier va faire, c'est le taux d'intérêt. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas des taux d'intérêt à 6-7 % dans les véhicules neufs. C'est des rabais subventionnés à, mettons, 1,5 % 2 % 0 % 0,9. Donc, qu'est-ce que le manufacturier fait? Il calcule c'est quoi le coût d'acheter 5 % d'intérêt sur un véhicule de 30 000, puis c'est ça le rabais qu'il donne, dans le fond. Là.
Okay.
Fait que quand tu vas avoir un rabais, souvent, un véhicule, justement, qui va avoir 6 000 de rabais, il va avoir un taux bancaire, 5-6 %
Oui, c'est ça. Ah oui, c'est tout ça.
Oui.
Puis quelqu'un qui a de la misère avec son crédit.
Oui.
OK. Toi, chez vous, c'est Groupe Saillant Autocrédit.
Exact.
Puis il existe d'autres services. C'est quoi la réalité? Comment ça marche, là? Tu sais, mettons, t'arrives là, puis tu fais...
Bon, moi, j'ai pas passé au crédit. Il y a beaucoup de monde... Tu sais, quand on parle de crédit, là, c'est 40 % des gens n'ont pas un crédit régulier. Quand je parle de crédit régulier, c'est quelqu'un qui rentre dans un concessionnaire, qui veut acheter un auto, puis que ça passe tout de suite... Comme une lettre à la poste, en fait, est approuvé au taux subventionné du manufacturier ou bien dans l'usager, là, au taux régulier bancaire qu'on peut avoir, les meilleurs taux.
Oui.
Puis, ça, c'est 60 % des gens que ça passe. 40 % des gens, ça accroche. Ils vont avoir un taux. Ils peuvent passer à un taux régulier, mais ils vont peut-être avoir besoin plus d'argent comptant ou ils vont avoir besoin de quelqu'un qui cautionne ou quelque chose comme ça. OK? Fait que ça, c'est des gens qui ont un crédit qui est non régulier. Ils appellent ça non-prime. OK? Fait que c'est 40 % du monde déjà. C'est beaucoup de monde.
Presque la moitié.
Oui. Puis ça augmente tout le temps. C'était 30 % Oui, c'est 30 % il y a quelques années.
OK.
Puis ça augmente tout le temps. Oui, c'est autour de 40.
Sur combien d'années tu dis que ça a augmenté de 10 %
Écoute, moi, il y a 7-8 ans, là, quand on a vraiment entré avec Groupe Saint-Auto Crédit, c'était à peu près 30 % Fait que je dirais que ça doit faire ça doit 7, être 1 ou 2 % par année.
OK.
Le niveau d'endettement des gens est plus grand, mais aussi, c'est devenu un sujet aussi qui est beaucoup moins tabou qu'avant. Alors, avant, là, l'image que les gens qui n'étaient pas au crédit régulier, c'était quoi?
Là, c'était comme
pas une belle image, puis tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on en parle, puis on a les annonces des syndics, puis tout ça qui parle. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui arrive? C'est des gens qui ont des bad luck.
Ouais.
Alors, tu sais, une séparation, ils ont perdu leur emploi, ils ont été malades, la maladie, on le voit souvent. Un imprévu. C'est toutes des choses.
C'est plus une MTS, là.
Non. Tu sais, puis manquer tes paiements, quelques mois, va affecter ton crédit.
Ouais.
OK? Donc, qui va t'empêcher d'avoir un taux régulier. Fait que là, à partir de là, ces gens-là qui savent qu'ils ont un doute, eux doivent faire quand même très attention qu'il y a un magazine. Parce que quand on fouille un peu là-dedans, il y a beaucoup de compétition là-dedans. Pourquoi qu'il y a beaucoup de compétition, si c'est agressif, ça peut être très payant.
OK.
OK. Puis ça peut être très payant. Pourquoi? Ben parce que les gens sont un peu pris en otage là-dedans. Parce que les gens arrivent puis ils se font refuser un crédit. Ben ils ont un taux d'intérêt qui semble très haut. Puis là, ils savent pas trop quoi faire. Les gens disent, garde, tu passeras pas, je t'ai eu ce taux-là. Tu es à 15%, 12%. C'est pas tous des taux super hauts, là, mais puis là, il dit, j'ai ce taux-là pour toi. Le client a comme perdu un peu son pouvoir de magasiner. Puis c'est vrai qu'il perd un peu son pouvoir de magasiner. C'est pour ça qu'il faut qu'il magasine vraiment son centre de crédit avant l'auto.
OK. Pas l'inverse.
Pas l'inverse. Parce que si je magasine un auto, premièrement, ils vont me dire, ben, cet auto-là passe pas, mais je t'ai approuvé pour tel autre auto.
Oui.
Mais là, c'est quoi cet auto-là? Y es-tu bien inspecté? Y es-tu bien réparé? Vient de où? Puis tout ça. Parce que dans les centres de crédit, on a plein, là, les choses que les gens doivent vraiment faire attention. Quand tu magasines ton centre de crédit, c'est un, ils ont-tu un inventaire sur place? Il y a des centres qui n'ont pas d'inventaire. Ils n'ont aucun inventaire.
Ils font juste affaire avec d'autres. Là.
Ouais. Mais là, s'ils font affaire avec d'autres, qu'est-ce qui arrive dans la vraie vie? Ils disent, ah, j'ai trouvé un auto, 12 000 piastres, l'autre côté. Mais l'auto, il est à vendre à 12 000. L'autre concessionnaire ne vendra pas l'auto à rabais. Et si moi, j'ai un véhicule à vendre à 12 000 dans mon inventaire, c'est parce que c'est le bon prix, c'est le prix
c'est
du
ça,
marché.
Là, c'est ça.
Si quelqu'un m'appelle, je dis, non, mais je vais le vendre moi-même à un client à 12 000.
Voilà.
Je ne le vendrai pas à 11 000 à une compagnie que je ne connais pas de crédit.
Non.
Fait que souvent, ces compagnies-là, parce que je te parle de qu'est-ce que les clients peuvent nous dire à gauche et à droite, c'est qu'ils veulent pas qu'ils aillent voir l'auto. Pourquoi? Parce qu'ils vont se prendre une cote par-dessus.
Okay.
Fait que finalement, tu achètes le char en haut de 12 000.
Ouais.
Fait que parce que eux, c'est comme ça qu'ils vont faire du profit, sinon, ils feront pas de profit
c'est
à vendre ça. L'autre question posée aussi, c'est y a-tu des frais d'admin? Y a-tu des choses comme ça? Des frais d'admin, si c'est pas inclus dans le prix du véhicule, c'est illégal. Alors, puis il devrait pas avoir de frais d'admin. Pourquoi tu aurais un frais d'admin?
OK.
Si j'ai pressé mon véhicule sur le prix du marché, c'est 12 000, c'est le bon prix. Pas besoin. Il n'y a personne qui charge des frais d'admin. Ça ne doit pas se faire. C'est une pratique qu'on voit plus dans l'Ouest canadien.
OK.
Mais au Québec, c'est beaucoup plus réglementé, puis tant mieux. Puis ça doit être mis dans le prix. Fait que souvent, des fois, le monde va arriver, ils vont dire, ah, il y a un frais d'admin pour les services que je t'ai rendus.
Ah.
Ben non, ça devrait être inclus dans le prix.
Fait que
ça, quand vous magasinez un centre de crédit, regardez s'ils ont des frais d'admin. L'autre chose, puis ça, c'est un autre qui est très fréquent, puis très difficile pour quelqu'un qui magasine de savoir, c'est les protections obligatoires. Donc là, ah, ben monsieur le client, parfait, je vous ai approuvé tel taux, mettons 9%.
Ouais.
Puis vous allez avoir le véhicule que vous voulez, celle-là, parfait. Là, la banque, elle voudrait savoir maintenant comment vous allez assurer votre prêt. C'est une classique qu'on entend, là.
OK.
Mais la banque, elle ne demande jamais ça.
Ah, non.
La banque n'oblige aucune protection supplémentaire.
Okay.
Mais là, ces gens-là vont dire, ben oui, c'est obligatoire, tu dois prendre une garantie prolongée parce que la banque ne veut pas que tu aies une bad luck puis t'es prêt.
Puis eux autres, ils ont une commission sur une vente de garantie prolongée.
Une commission, tu sais. Mais je dis pas qu'il ne faut pas en prendre des produits.
Non.
Ça peut être très bon à prendre pour quelqu'un qui a un budget qui est très restreint, mais ce n'est jamais obligatoire.
Je te suis.
Alors,
c'est important de savoir.
C'est important de le savoir. Dans le fond, le véhicule qui est vendu, ben le centre qui vend ce véhicule-là, il doit faire son profit en vendant le véhicule au prix du marché. Puis normalement, avec ça, il est correct. C'est sûr qu'il va vendre des services qui peuvent être très utiles aux gens après, puis c'est parfait, mais les gens doivent avoir l'option. Fait que les gens qui magasinent un centre de crédit, c'est bien important. Parce que le taux d'intérêt, faut qu'ils trouvent un endroit qui ont confiance.
Ouais.
Parce que le taux d'intérêt peut bouger beaucoup d'un endroit à l'autre.
Ah oui?
Même nous, à l'interne.
Pour le même gars avec la même situation. Là.
Ben oui, même nous, c'est parce que ça prend des gens expérimentés pour faire ça. Parce que moi, selon les erreurs qu'il y a dans ton dossier de crédit ou les tâches qu'il y a dans ton dossier de crédit,
oui,
je vais savoir où envoyer ton dossier de crédit, à quelle banque. Il y a des banques qui pardonnent plus certaines situations que d'autres.
Ah ouais, il y a une culture bancaire.
Parce qu'ils vont regarder ton dossier de crédit avec différents... Ils vont regarder avec, mettons, Equifax.
Ouais.
Puis avec Equifax, il va avoir... Ton dossier de crédit peut être différent que dans un autre centre de crédit. Fait que moi, dans le fond, je dois vraiment gauger selon... Nous autres, on sort vraiment le bureau de crédit des deux, puis on regarde. Puis le basé là-dessus... Par expérience, on sait où l'envoyer. Puis on sait aussi comment discuter avec les banques. Puis après ça, c'est une question d'expérience aussi. C'est si fait beaucoup, quelqu'un qui fait beaucoup de volume et qui a des bonnes relations d'affaires avec les banques, c'est plus facile des fois de négocier avec eux.
Mais pourquoi tout ça n'est pas automatisé? Comment ça se fait que c'est encore des humains?
Ça prend des humains. C'est beaucoup. C'est de plus en plus automatisé, mais aussitôt que le dossier est hors norme, l'humain doit...
Il faut
comprendre un peu aussi le pourquoi.
Non, t'sais? Mais c'est important ce qu'on parle là. Je vais dire pourquoi. Parce que moi, perso, je me disais, est-ce qu'une agence, un groupe saillant autocrédit, c'est eux autres qui me financent, mais pas pantoute dans la vraie
vie. Du tout.
C'est que toi, tu me représentes.
Exact.
Auprès d'une banque connue, dans le sens, c'est pas une espèce, t'appelleras pas aux îles Caïmans.
Non.
Puis tu vas dire, là, j'ai un client aujourd'hui. Son nom, c'est Marc Boilard. Il y a un problème avec son crédit parce que telle affaire. Puis là, dans le fond, tu deviens comme mon espèce d'agent.
Exact.
Tu me représentes pour trouver quelqu'un qui va venir me donner le financement nécessaire.
On va aller négocier le meilleur taux pour toi.
Je te suis.
Puis
ça va être inclus dans le prix final, tes services.
C'est inclus dans
c'est
le prix
final. C'est même que
taux.
C'est supposé
c'est pas, être. Puis, tu sais, on a le client qui achète un véhicule en rétablissement de crédit.
Ouais.
Ne devrait pas payer son véhicule plus cher qu'un client qui achète son véhicule à crédit régulier. C'est pour ça que je dis l'inventaire est bien important. Exactement. Il faut que la personne, son inventaire est là, que le véhicule est là, qu'il est pris est là. Il peut voir à
c'est
quel
ça,
prix
là,
est placé.
C'est lui, puis ça se prie là. Il n'y a pas de différence.
Il est à ce prix-là, ça se vend 12 000, c'est le marché. Maintenant, tu nous vends ce véhicule-là, parfait. C'est juste le taux d'intérêt qui risque d'être plus haut.
Je te suis.
Ou qui demande plus de liquidité.
OK.
Tu sais, plus de cash. Ouais. Ça va être des choses comme ça qui vont arriver.
OK.
Puis pour nous, c'est un défi parce que là, il faut arriver avec les critères de la banque. La banque va dire, parfait, mais regardez-moi, c'est un véhicule de 15 000 que tu vas financer, mais les paiements doivent rentrer dans temps.
OK.
Fait que là, des fois, même qu'on est obligé d'escompter un peu plus l'auto pour arriver dans le temps. Fait que c'est... puis là, mettons, le client va avoir tel produit, mais des fois, il ne peut pas avoir ce produit-là parce que là, on ne respecte plus les critères de la banque parce que là, lui, il regarde aussi la valeur du Black Book. Le Black Book, c'est... C'est ça. Fait que, il y a un paquet de critères. On doit jongler avec tout ça. Fait que, dans le fond, ça devient aussi important d'avoir un bon inventaire parce que je dois trouver le bon produit pour toi. Parce que tu cherches, mettons, un SUV compact. Parfait. Mais je peux avoir un CX-5, je peux avoir un RAV4. Bien, le RAV4 peut mal fitter avec les critères de la banque, mais le CX-5 peut très bien fitter.
Parce qu'ils ont comme un catalogue, eux autres, d'auto qui vont passer plus.
Ouais, avec la valeur marchande du produit. Ouais. Des fois, il y a des erreurs qui se produisent, puis des fois, ils disent, regarde,
c'est un alignement de planète, là.
Exactement.
C'est vraiment pas juste.
Ça change à tout. Je te suis.
Tu parlais tantôt de trucs qui marchent pas, là, comme la protection obligatoire qui est jamais exigée par la banque. Il y a un auditeur au 25226 qui nous demande les frais d'ouverture du dossier, est-ce que c'est légal?
Ben, je peux pas te dire si, je sais pas. En fait, ça existe pas chez nous.
Okay.
Il devrait pas en avoir. En fait, tous les frais devraient être inclus dans le prix du véhicule.
C'est tout, là.
Si j'annonce un véhicule à 300 piastres par mois, tous les frais doivent être inclus. Les seuls frais là, qui peuvent se rajouter par après, là, ça va être des frais, mettons, pour plaquer ton véhicule puis des choses comme ça. Là.
Mais qui ne te regardent même pas.
Ben non, mais les gens vont choisir d'aller avoir qu'un transit, ça va coûter 10$ ou bien, on va dire, on t'offre le service de plaquer, mais ça doit être dit d'avance. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand le gars va magasiner son auto, parfait, regarde, ton véhicule va t'attendre, puis tu vas avoir des frais pour plaquer ton véhicule de, mettons, 50$ pour aller. Mais ça va être d'avance. Quand tu magasines ton produit, tout doit être là. Tu peux pas, une fois qu'elle dit c'est beau, moi j'achète ta loto, pas avoir de nouveaux frais après. Fait que si quelqu'un charge des frais d'ouverture de dossier puis qu'il t'est dit d'avance, puis que le véhicule t'est pas annoncé à ce prix-là, il faudrait qu'il soit annoncé à ce prix-là. Mm-hmm. Tu sais, on a une feuille de vitre sur les véhicules usagés. Il y a un prix qui est en bas, là ça doit tout inclure.
OK.
Tout est là-dedans.
Ouais. Autre question sur les voitures en location qu'on a passé par-dessus.
Mm-hmm.
Est-ce que le kilométrage. C'est négociable, puis le coût du kilométrage excédentaire.
C'est non négociable, sauf qu'il y a des options.
Okay.
Alors, mes facturiers, souvent, vont offrir des options. La plupart vont offrir entre 20 et 24 000 par année. Il y en a qui vont aller aussi avec des locations réduites à 16 000 km par année. Puis, il y a peut-être même d'autres variations que je connais pas avec les marques qu'on représente pas.
Ouais.
Mais ça, ça vient du manufacturier. Donc, nous autres, on fait juste, en fond, offrir les options aux gens. Ils vont pouvoir, s'ils prennent le millage d'avance, ça va généralement coûter moins cher par kilomètre que s'ils défoncent le contrat initial.
Ah.
Okay, donc, mettons, on dit au début, ça peut coûter 8 cents du kilomètre.
Puis en plus, pas une grosse différence. Là. Entre 20 000 et 24 000, le paiement, des fois, ça change de 20 piastres.
Oui, mais ça peut être quand même important pour
ben,
quelqu'un qui sait.
Si t'es pas sûr pour 20 piastres, t'as tout aussi bien de le prendre l'autre après.
Oui, si t'es pas sûr, la plupart du monde qui loue, habituellement, ils font un millage quand même relativement bas. Les gens qui font beaucoup de millage, passer 20 000 km en location, il y en a moins. Là. C'est des gens qui vont préférer être propriétaires. La location a un gros avantage pour ceux qui ne roulent pas beaucoup, là, ou même ceux qui roulent de façon modérée, c'est que ça te protège, entre autres, des accidents. Okay? Parce que tout le monde pense qu'on va prendre une assurance. Je suis propriétaire de mon véhicule. J'achète un véhicule aujourd'hui, puis je suis assuré, n'est-ce pas?
Ben oui.
J'ai un accident, mon assurance va payer, je vais me coûter mon déductible. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que ton véhicule est rendu accidenté. Quand je vais racheter ton véhicule, quand tu vas le vendre, tu dois déclarer que ton véhicule est accidenté.
Oui.
Il vient de perdre énormément de valeur.
Okay.
Des milliers de dollars.
Okay.
Ça, c'est toi qui vas l'assumer. C'est pas ta compagnie d'assurance. En location, c'est le manufacturier qui l'assume.
Okay.
Donc, tu as juste à remettre les clés. Puis tu dis, regarde, la valeur résolue est tant, mais on sait que dans la vraie vie, la valeur marchande de ce véhicule-là est moindre parce qu'il est accidenté.
Mais c'est plus ton problème.
C'est plus ton problème. Il va aller à l'encan, puis il va se vendre moins cher à l'encan parce que le manufacturier va le déclarer comme quoi accidenté à l'encan.
Fait que dans le fond, ça devient le manufacturier, pas le manufacturier, mais le concessionnaire qui l'envoie à l'encan.
qui va absorber l'accident.
C'est pas le concessionnaire, c'est le manufacturier.
Ah ouais.
Oui, parce que quand tu l'as un véhicule, c'est en fond une propriété d'une compagnie qui appartient au manufacturier.
OK.
Okay. Comme mettons Toyota, c'est Toyota Crédit qui loue le véhicule.
Okay.
Donc, Toyota Crédit est propriétaire du véhicule, en réalité. Toi, tu es rien que le locataire.
Okay.
Puis après ça, Toyota Crédit, ben, il va gérer, lui, la perte. Puis l'avantage, c'est que si ton véhicule, il vaut plus, par exemple, ta valeur, tantôt on parlait de valeur résiduelle, on dit, bon, c'est beau, ça va être à 60% après 3 ans, mais finalement, le marché est en feu pour ce modèle-là, puis il est à 62-63%. Ben là, tu pourrais dire, c'est beau, moi, je rachète mon véhicule parce qu'il vaut plus.
Ouais.
Puis même matin, je pourrais m'en virer de bord, puis le vendre, puis
je te suis.
De l'argent, là, tu sais.
Julie, as-tu des questions que tu voudrais nous amener sur
En fait, il y en a une qui vient d'arriver, là. Je suis quand même étonnée.
On pourrait en parler pendant 4 heures, mais...
Des frais de 500 $ pour avoir un taux d'intérêt moins haut, est-ce que c'est légal?
C'est un rachat de... Ben, en fait, je ne sais pas comment ça a été présenté, OK? Mais il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est racheter un taux d'intérêt.
Ah.
Donc, dans le fond, moi, en tant que concessionnaire, je peux avoir un taux d'intérêt plus bas, je vais racheter le taux de la banque, je vais payer.
OK.
Donc, ça va me coûter 1 000, puis je vais avoir, mettons, un demi-point de rabais.
Toi, c'est un deal que tu fais direct avec la banque?
C'est ce que je pourrais faire à la banque.
OK. Okay?
Ça revient un petit peu au même, là. Je vois pas l'utilité d'offrir ça au client. Là.
Mm-hmm. C'est comme une option packagée, bizarre.
Mais écoute, on le voit, on a des clients qui ne veulent... On a des clients de certains backgrounds, ils veulent pas payer d'intérêt. C'est comme ils n'ont pas le droit avec leur religion.
OK, OK.
Ben là, c'est des choses qui peuvent être.
Ah,
qui peuvent servir.
Okay. Ah ben, c'est intéressant. Vez, as-tu une dernière question? Ou?
Pas du tout.
Non? Bon, ben écoute, Alexandre Saillant du Groupe Saillant et dont Groupe Saillant Autocrédit, là, que tu rejoins sur Internet, groupesaillantautocrédit.com, parce qu'on a parlé beaucoup de ces questions-là. Merci beaucoup, Alex.
Ça me fait grand plaisir.
Très, très éclairant, c'était le fun.
Au FM 93, c'est le retour d'Éric Duhem.
On revient après ces quelques messages. FM 93.